Chapitre 9. L'ange démon volant. L'albatros était parti depuis 2 jours maintenant. Tout allait bien, du moins Lunella ne ressentait aucun danger planant au-dessus de son frère jumeau. Comme Brasa l'avait prévu, le temps était idéal. Le ciel, aussi loin qu'on pouvait le voir, restait uniformément bleu. Les rares nuages avaient été chassés par le vent fort, mais sans bourrasque. Zizo et Alix aimaient marcher près du fleuve. Leur balade favorite les conduisait du château au tipi, mais ils prolongeaient souvent leur promenade bien au-delà, jusqu'au grand moulin quand ils décidaient de remonter le fleuve et jusqu'aux îles du dernier méandre quand ils décidaient de suivre le courant. Ils remontaient le fleuve ce matin-là. Zizo s'arrêta devant la passerelle qui franchissait le fleuve en direction de la très grande bibliothèque. C'était précisément là qu'il avait remporté le tournoi de l'étoile, l'année de son arrivée au tipi. Sans doute l'un des plus beaux souvenirs de sa vie, pendant les quelques secondes où il avait cru avoir gagné, et l'un des pires quand on l'avait accusé de tricherie. Des ronces poussaient sur le bord de Seine, obligeant à marcher en équilibre au plus près du fleuve. Mûrier, framboisier, rosier. Zizo cueillit avec délicatesse une rose sauvage et l'offrit à Alix. C'est pour toi, ma reinette, pour ta couronne, en attendant qu'Agnel et Solario te rapportent de la mer de nouvelles immortelles.
J'espère bien qu'ils reviendront avec d'autres trésors, plaisanta Alix. Je ne sais pas, moi, des licornes, des poissons volants, des morceaux d'étoiles.
Moi, j'espère simplement qu'ils reviendront.
Ils laissèrent leurs regards filer le long de l'eau du fleuve. Alix, au bout de quelques secondes, tourna le sien vers Zizo.
Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé.
Rien d'important.
C'est à cause d'Agnel? Tu as peur pour lui? Tu n'aimes pas que vous soyez séparés une nouvelle fois?
Tu n'as pas peur, toi? On n'a aucune idée de ce qui les attend. Chaque nouveau méandre du fleuve peut cacher un piège. Le monde est forcément dangereux.
Il resta silencieux quelques secondes, comme s'il imaginait les pires créatures féroces attaquant l'albatros.
Mais, ajouta-t-il, il y a autre chose.
Il cueillit une nouvelle rose rouge à l'arbuste sauvage, serrant le poing sur la tige.
Elle n'est pas pour moi, celle-là ?
S'amusa Alix. Zizo hésita. Il repensait aux derniers mots d'Agnel sur le quai avant qu'il ne rejoigne l'albatros. Prends soin de toi, mon petit surmulot, et sois prudent quand tu croiseras l'ange démon volant. Ce n'est ni un oiseau, ni un avion, ni un cerf-volant. C'est une statue. Une statue posée sur une tombe. Celle d'un écrivain du monde d'avant. Oscar Wilde. Elle doit encore exister dans le plus grand cimetière de Paris, le Père Lachaise.
Il se souvenait également des consignes étranges de Chrysante.
Tu poseras une rose rouge devant l'ange démon et je te rejoindrai le lendemain à minuit pile. J'ai besoin de prendre mes précautions. Tu comprendras quand tu sauras.
Non, avoua Zizo après un nouveau silence gêné. Elle est pour l'ange démon volant.
Alix masqua sa surprise, puis se força à rire.
Ah, ouf! J'ai cru que tu voulais l'offrir à une autre fille. Mais si c'est pour ce bon vieil ange démon volant, il faudra que tu me le présentes, ce monstre qui aime à ce point les fleurs.
Zizo prit une profonde inspiration. Si je te révèle un secret, tu ne raconteras rien au conseil?
Alix redevint immédiatement sérieuse.
Ça dépend, Zizo. Ça dépend du secret. Tu promets?
Alix, à son tour, retint sa respiration.
Oui.
Zizo tourna en rond devant la passerelle sur le fleuve, soulevant de petits nuages de terre ocre du bout de ses semelles de cordes tressées, tout en racontant en détail la visite de Chrysante dans les appartements de la reine. Alix en resta bouche bée.
« C'est Chrysante qui a entre les mains le troisième livre de Mordelia ?»«
Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. »«
Il n'a pas brûlé ? Elle ne l'a pas jeté dans la Seine ?»«
Elle jure que non. »
Tu te rends compte que ce livre, on n'en connaît que la couverture, et encore, juste un cartouche, 6 hiéroglyphes, et qu'une armée de savants travaille dessus pour en percer le mystère.
Je sais, oui.
Et que ces 6 petits dessins suffisent à rendre Génor complètement fou parce qu'il s'est mis dans la tête que le rébus « femme plus lune plus maison » signifiait « tombe de Marie-Lune ».
Je me doute.
Mordelia l'a lu, ce livre ?
Je suppose.
Alix prit un moment pour réfléchir. Elle redressa distraitement sa couronne sur sa tête, coinçant sa rose entre son pouce et son index.
Zizo, ce troisième livre a rendu Mordelia cinglée. Alors imagine le résultat sur une fille comme Chrysante, qui est déjà sacrément fêlée.
Zizo tica.
Ne parle pas d'elle comme ça.
Alix comprit qu'elle avait parlé trop vite.
« Ok, désolé, excuse-moi. Je l'aime bien, moi aussi, Chrysante, la collante. Je sais qu'elle n'est pas méchante, mais... Mais pour cette histoire de livre, je dois en informer le conseil. C'est trop important. »
Zizo prit le temps de réfléchir. Il se sentait tiraillé entre 2 promesses qui lui seraient impossibles de tenir. D'un côté, il était libéré de s'être confié à Alix. Leur complicité était plus forte que tout. Sans elle... Leurs 2 tribus ne se seraient jamais réconciliées. Il avait une confiance absolue en Alix, mais il savait que, dès que le conseil serait au courant, Augénor, ou le grand cerf, si ça l'amusait qu'on l'appelle ainsi, donnerait des ordres précis. Jeanne d'Arc chargerait ses soldats de confisquer le livre pour que les savants l'étudient avec des gants et des blouses blanches, comme s'il était ensorcelé. Sauf que jamais Chrysante n'accepterait de le leur remettre.
Chrysante est peut-être fêlée, finit par dire Zizo, mais il n'y a pas plus méfiante et rusée. Elle a caché ce livre quelque part et elle s'en tiendra à sa version. Elle l'a balancé dans le fleuve. Vous allez faire quoi ? La torturer pour lui faire avouer ?
Depuis toujours, il s'était senti le devoir de protéger Chrysante. L'idée qu'on puisse lui faire du mal... lui était insupportable.
« Ne dis pas n'importe quoi !» réagit aussitôt Alix.
Elle détestait qu'on l'associe aux pratiques musclées des soldats ou de son conseiller. Elle essayait toujours de plaider la clémence et les méthodes douces, même si elle comprenait que le conseil agisse parfois avec sévérité pour assurer la sécurité de tous. Il fallait bien qu'un ministre se charge des punitions et d'isoler à la conciergerie ceux qui ne respectaient pas les règles. Elle avait accepté un 3e mandat de reine pour cette unique raison, apporter un peu d'humanité et de sensibilité. Zizo, plus qu'aucun autre, le savait.
« Donne-moi 2 jours, » proposa-t-il. « Chrysante me fait confiance. Elle me dira ce que contient ce foutu livre. C'est la meilleure solution pour découvrir ce qu'il raconte. »
Alix hocha la tête. Évidemment, c'était la meilleure solution. Elle avait pourtant l'impression d'être une dirigeante inconsciente cachant à son peuple un secret d'État. Elle s'approcha pour embrasser Zizo.
À vous. Tu l'aimes bien, ta Chrysante, la collante ?
Il se força à sourire.
Ah, j'avoue, Majesté, pas besoin de demander à ton conseil de me torturer.
Je l'aime bien. Comme une petite sœur.
Elle a ton âge, tu sais, et je ne suis pas certaine qu'elle t'aime seulement comme un grand frère.
Elle aime qui elle veut, mais moi, c'est toi que j'aime.
Et il l'embrassa. Instinctivement, elle serra dans son poing la tige de sa rose. Une épine lui traversa la paume. Elle l'ouvrit en étouffant un cri, et la fleur tomba dans la poussière du quai. Zizo resta debout comme un idiot, la rose destinée à l'ange démon à la main, se demandant s'il devait l'offrir à son amoureuse. Il n'avait qu'à se servir. Autour d'eux, des centaines de fleurs poussaient entre les ronces. Un peu plus loin, devant les haies délimitant la maison du jardinage, le vaste parc que Vanille et Philao, le chef jardinier, envisageaient de réaménager, Pépin pêchait. Pépin avait toujours aimé pêcher. Chasser lui faisait peur. Cueillir des fruits ou ramasser des champignons dans la forêt l'ennuyait. Il avait été obligé de le faire au tipi quand il était de corvée, mais la forêt l'avait toujours effrayé. Trop d'animaux, trop d'ombres, trop d'arbres, pas assez de bruit. Il préférait la lumière du soleil scintillant sur l'eau, l'horizon ouvert sur le fleuve et tremper le fil de sa canne pendant des heures s'il le fallait. Les poissons ne sont pas dangereux. Un poisson n'a jamais mordu personne. Pas comme un chien, un loup ou même un cygne. Même la fois où il avait remonté du fleuve un silure de près de 2 mètres, de quoi nourrir le tipi pendant 1 semaine, il n'avait ressenti aucune frayeur. Pêcher le rassurait. Il jeta un œil sur le quai, jusqu'à la passerelle de bois. Ouf, les deux amoureux s'étaient éloignés, la reine et son valet. Ils n'avaient pas confiance en Zizot. Ils restaient persuadés que c'était lui qui les avait livrés à ceux du château, avant la bataille de la cour carrée. Un traître. S'il n'était pas revenu à temps de la forêt, avec Agnelle, Suzette, Gulot-Gulot, qu'est-ce qu'il se serait passé? Il n'avait pas confiance non plus dans cette reine. Trop gentille, trop souriante. Un chef doit être fort et savoir protéger, comme Akane. Mais Akane aussi les avait trahis. Mordelia, elle, était une vraie chef. C'est pour cela qu'il l'avait rejointe au camp du désert, pour être protégée, pour être soignée. Mais maintenant que le camp du désert avait brûlé, à qui pouvait-il faire confiance? La peur ne le quittait presque plus jamais, même quand il pêchait en pleine journée. Pépin observa encore les alentours, essayant d'apercevoir les silhouettes de Zizot et d'Alix. Non pas qu'il cherchât à les espionner, qu'il se fichait bien qu'ils viennent s'embrasser en douce sous les rosiers, mais il voulait être certain de ne pas rater leur copine, si elle les rejoignait, puisque ces trois-là se promenaient souvent ensemble. Sabi? Tiens, en voilà une à qui il aurait pu faire confiance. Sabi. Pas pour être une chef, non. Mais pour tout le reste. Pour parler, jouer, chasser, pêcher. Ou juste se promener, main dans la main. Lui, le petit moineau, et elle, la plus jolie de toutes les filles de la ville. Rien que pour elle, il se serait bien de nouveau envolé du nid pour le plaisir de revenir et qu'elle soit volontaire pour le prendre sous son aile quand il reviendrait. Rien que pour elle, il serait bien resté pour toujours au château. Il laissa ses rêves l'envelopper tout en somnolant au soleil. Les poissons attendraient, c'était aussi pour cela qu'il aimait pêcher. Combien de temps s'était écoulé quand il sentit entre ses mains que le fil de sa canne à pêche se tendait? Il ne se posa pas la question. Sans vraiment chercher à savoir s'il rêvait ou s'il était réveillé, il tira sur sa canne. Ça mordait à l'hameçon. Il tira, 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 et remonta une jolie sirène. Son visage ruisselait, mais Pépin le reconnaissait. C'était celui de Sabi. Elle lui souriait, l'invitait à plonger. Pourquoi pas, après tout? Il faisait si chaud, elle était si belle. Il se penchait déjà dangereusement vers le fleuve quand une force le souleva, violemment. L'instant suivant, il se retrouva à 10 mètres des berges de la Seine, caché dans l'ombre des ronces et des lauriers bordant le fleuve. Une silhouette compacte se tenait devant lui. Plus baleine que sirène. Bill. Pépin se recroquevilla autant qu'il le put. L'ado devant lui portait toujours son costume de plume, mais la moitié d'entre elles était brûlée, et toutes étaient grises de poussière. On aurait dit un vieux rapace devenu trop gros, incapable de voler et condamné pour se nourrir à chasser les rats en surgissant dans leur dos.
« Va-t-il me tuer ?» pensa Pépin. « Pour me dévorer ?»
Quelques mètres plus loin, au pied d'un arbre, il repéra une forme sombre aussi immobile qu'une pierre. Une pierre noire.
« Approche !» fit Bill.
Il empoigna Pépin avec violence et le traîna sur quelques mètres. La pierre devant lui, lentement, reprenait vie. Elle se dépliait comme une plante carnivore. De longs fils blancs sortirent d'une capuche noire, puis deux yeux rouges éclairèrent le trou sombre, semblable à ceux de ces animaux qui vivent sous terre et s'habituent à survivre dans les ténèbres. Enfin, des mains très fines, jusque-là dissimulées sous les plis de la robe noire, s'ouvrirent. Le moineau ne put détourner son regard des longs ongles peints en rouge sang. Des griffes.
Alors, Pépin, quelle nouvelle du tipi?
La voix de Mordélia était douce, sans haine, sans colère. Pépin hésitait entre essayer d'échapper à Bill pour s'enfuir en courant et se jeter à genoux devant Mordélia pour la supplier de le garder auprès d'elle. Elle seule pouvait le protéger. Il se souvenait de cet après-midi sur l'île aux cygnes, où il avait cru être mordu par Louponero. Elle l'avait examiné, rassuré.
Rien ?
Bafouilla le moineau en se rendant compte que Mordélia attendait qu'il parle.
Rien de spécial ?
Pépin s'en voulut aussitôt d'une réponse aussi stupide, mais il n'avait aucune idée de ce qu'elle avait envie d'entendre.
Ah !
Se contenta de sourire la sorcière. Elle sortit sa longue vue de sous sa longue robe noire pour bien lui faire comprendre qu'on ne pouvait rien lui cacher.
« Et ce bateau, parti il y a 2 jours pour descendre le fleuve, ce n'est pas quelque chose de spécial ? Et ce banquet sous le tipi ? Je t'ai vu, Pépin, je t'ai vu, comme les autres, te goinfrer, vider des gobelets de ces boissons qu'on ne fabrique qu'au château.
Comment peux-tu être sûr qu'elles ne sont pas empoisonnées ? Et ces fromages, ces viandes grillées, ces pâtisseries ?
As-tu pensé à moi, à Bill, quand tu te remplissais le ventre ? As-tu pensé à nous qui avons tout perdu pour te protéger ? À nous qui errons comme des chiens dans la forêt à manger des racines, des fruits tombés, des animaux morts ? Car même affamés, nous respectons la trêve et nous ne chasserons pas jusqu'au jour de la grande battue. Ce sont nos valeurs, tu comprends ? Nos valeurs, depuis que nous sommes nés, ce sont elles que nous devons sauver.
Pépin baissa les yeux. À leurs pieds, il repéra les traces d'un petit feu et des restes d'os de lapin ou de petits rongeurs.
J'aurais voulu vous rejoindre,
se défendit Pépin.
Mais comment j'aurais pu faire ? Personne ne savait où vous étiez.
Mordélia laissa tomber sa capuche sur sa nuque et agita son bras comme si les mots de Pépin l'agaçaient autant que des mouches voltigeant autour d'elle.
Ne te fatigue pas à t'excuser. Tu me seras plus utile au château. Oui, au château, ne me mens pas. Je sais bien que vous passez tous beaucoup plus de temps au château qu'au tipi.
La sorcière agita encore la main, la manche de sa robe noire glissa. Pépin découvrit de longues traces sombres de brûlures sur les bras de Mordélia. Il retint un cri d'effroi et esquissa un mouvement de recul. Mordélia attrapa le bras du garçon. Ses longs ongles rouges se refermèrent en griffes sur son poignet.
Tu seras mes yeux à l'intérieur du château. Pépin, tu vas tout observer. Tu vas faire ton gentil moineau, ton moineau repenti. Tu sais très bien jouer le rôle du petit oiseau effrayé. Et tu sais très bien mentir aussi. C'est pour cela que je t'ai choisi. Tu espionneras tout et tu reviendras pêcher souvent ici. Ne cherche pas à nous retrouver. Jamais. C'est nous qui te contacteront, comme aujourd'hui. Pense à t'isoler de temps en temps, et nous serons là. Et n'oublie pas, si tu nous mens, si tu nous désobéis, si tu nous oublies, nous serons là aussi.
Pépin sentait son cœur battre à tout rompre. Les veines de son poignet vibraient entre les griffes de la sorcière. L'une d'elles avait même provoqué une petite entaille et touché une artère qui perlait, mêlant son sang à celui qui recouvrait les ongles de Mordélia. La peur était toujours là, plus intense que jamais, mais une fierté s'y ajoutait désormais.
« C'est pour cela que je t'ai choisi. »«
Que... Que devrais-je regarder ?
Demanda Pépin.
Tout ! C'est moi qui saurai si c'est important ou pas. Même des détails qui te semblent futiles peuvent m'être utiles. Et tu ne devras pas seulement te servir de tes yeux. Tu devras être mes oreilles aussi. Surtout si tu entends parler d'un livre.
D'un livre qu'ils m'ont volé. Le sang au poignet du moineau virait au violet. Mordelia le serrait trop fort. Pépin n'osait pas bouger.
« Il... »
fit-il d'une voix hésitante.
« Il y a eu un vol au château, dans les appartements royaux, à ce qu'il paraît. La couronne que devait porter la reine a disparu. Personne ne comprend comment c'est possible. Ils pensent qu'il y a un traître parmi eux. Ça les inquiète beaucoup. »
Mordelia parut soudain très intéressée.
« Bien, très bien, le verre est dans le fruit. Essaie d'en apprendre plus. »
Elle lui lâcha enfin le poignet. Sa robe glissa quand son bras se releva, dévoilant une autre large brûlure de la base de son cou jusqu'à son épaule droite.
« Et toi ?»
osa demander Pépin.
« Ça ira ?»
La sorcière sourit et fit signe à Bill d'approcher.
« Ne t'en fais pas. J'ai commis une faute au camp du désert, je le reconnais. Je leur ai montré à quel point nous pouvions être dangereux.
Je ne referai pas deux fois la même erreur.
Ils croient m'avoir détruite, mais je n'ai jamais été aussi forte.
N'oublie pas, bientôt, l'heure de ma vengeance sonnera. Je vais rebâtir un nouveau camp dans la forêt. » Plus discret, celui-là.
Elle replaça sa robe, dissimula ses cheveux blancs et son visage sous sa capuche et en quelques instants se transforma de nouveau en roche noire. Avant que Pépin ait pu réagir, Bill l'attrapa et le traîna vers le fleuve. Pépin s'apprêtait à s'enfuir en courant, abandonnant sa canne à pêche. Tant pis, il en fabriquerait une autre, mais Bill le retint.
« Et le chien ? Mon petit chien ? Je l'ai vu dans la longue vue ! Sur les genoux du tyran dans son fauteuil roulant. Tu veilleras à ce qu'il le traite bien ?